Et le journal vous est présenté par Ezekiel Fernandez. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le Liban frappé par une catastrophe majuscule, une double explosion hier dans le port de Beyrouth, bilan provisoire. Il s'est aggravé ces dernières heures, il fait état maintenant de plus de 100 morts. Les témoins parlent d'explosion atomique. Reportage dans ce journal signé Clotilde Bigot. Nous retrouverons également Laure Stéphan en direct de Beyrouth.
1000 emplois supprimés par le groupe Accor, le géant hôtelier frappé comme l'ensemble du secteur par la crise sanitaire, nous dira Anne-Laure Jumet.
Le Cachemire, un an après la révocation de son autonomie par New Delhi, l'Inde resserre son étau sur ce territoire. Himalaya, majorité musulmane, reportage de notre correspondant Sébastien Farcy.
Les violences urbaines se multiplient en Suède sur fond de trafic de drogue. Dernière victime en date, une jeune fille de 12 ans, victime d'une balle perdue dans la banlieue de Stockholm. Frédéric Faux s'est rendu sur place.
Et puis un sursis d'un an pour France 4, exécution immédiate pour François, la fin d'un long feuilleton dans l'audiovisuel public. La chaîne des Outre-mer cessera d'émettre le 23 août, un crève-cœur pour une bonne partie des ultramarins de la métropole. Le bilan des explosions de Beyrouth vient donc de s'alourdir. La Croix-Rouge libanaise parle désormais de plus de 100 morts. Et il faudra sans doute réviser ce bilan à la hausse régulièrement tout au long de ce lendemain de catastrophe. Une double explosion dans le port de la capitale libanaise, aussi puissant qu'un tremblement de terre de 3,3 sur l'échelle de Richter. Des images de dévastation qui rappellent à la population de terribles souvenirs de guerre. Je vous propose tout d'abord le reportage de Clotilde Bigot au cœur de la tourmente.
Il était 18h lorsque la terre s'est mise à trembler hier à Beyrouth. Une explosion d'une rare violence qui a détruit tous les bâtiments aux alentours du port et a brisé les vitrines de tous les quartiers de Beyrouth. Eli, lui, était à une dizaine de kilomètres du port, dans la banlieue nord de Beyrouth, lorsque l'explosion a eu lieu. Il a senti comme un tremblement de terre.
J'ai senti la terre trembler jusqu'à Antelias, puis j'ai ensuite réalisé que c'était une explosion.
Les blessés, eux, toujours plus nombreux, affluaient dans des ambulances, à pied, en mobylette ou en voiture, dans les différents hôpitaux de la capitale. L'Hôtel Dieu de France, l'un des principaux hôpitaux privés, a été immédiatement submergé de patients, comme l'explique le chef de la sécurité.
D'urgence très complète. Les patients sont dehors, c'est la terre.
Les hôpitaux subissent de plein fouet le manque de liquidité dans le pays et ont des difficultés à se procurer des médicaments. Face à cet afflux de blessés, de nombreux Libanais sont venus spontanément donner leur sang. C'est le cas de Jade qui travaille dans l'université voisine.
Il y a beaucoup de blessés, environ 400 ici à l'Hôtel Dieu. Ils ont un besoin urgent de sang.
Le bilan, lui, ne cesse de croître. Et face à cette catastrophe, la France a décidé d'envoyer de l'aide humanitaire au Liban.
Clotilde Bigot, au cœur de la tourmente, je vous le disais, le Liban a appelé la communauté internationale à l'aide. La France va envoyer dès aujourd'hui 2 avions militaires vers le Liban avec un détachement de la sécurité civile de 55 personnes, 15 tonnes de matériel et 6 autres tonnes de matériel sanitaire. Laure Stéphan, bonjour. Vous vous trouvez à Beyrouth. Les secours étrangers vont découvrir ce matin un vrai paysage de désolation.
Beyrouth s'est réveillée traumatisée dans un état de choc immense et même dans une forme d'incrédulité face à la violence de la déflagration monstre qui s'est produite hier, la seconde, celle qui a été suivie d'un énorme champignon au-dessus de la zone du port. La ville a été décrétée sinistrée, les secours se sont poursuivis pendant la nuit dans la zone du port, le bilan ne cesse de grimper, les hôpitaux sont saturés, des familles font le tour de ces lieux dans l'espoir de retrouver leurs proches dont elles sont sans nouvelles. Elles ont aussi lancé des appels à l'aide à la télévision. Les scènes vues hier soir en parcourant la capitale étaient apocalyptiques. Dans les quartiers proches du port, la dévastation est terrible, des pans de murs effondrés, du verre qui tapisse partout le sol. Mais même en dehors de ce périmètre, des dégâts matériels importants ont eu lieu. L'explosion a été entendue à des dizaines de kilomètres de la capitale. Selon le Premier ministre Hassan Diab, les déflagrations seraient dues notamment à l'explosion de quelque 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, des stocks qui, selon lui, étaient présents depuis 6 ans dans un entrepôt sans mesure de précaution. Alors il a pris son poste l'hiver dernier, il a promis que les responsables devraient rendre des comptes, mais dans un pays où l'impunité est reine, difficile d'y croire. Sur les réseaux sociaux, des Libanais dénoncent une négligence criminelle, ils expriment leur colère. Des appels ont été lancés à porter un masque pour se protéger des émanations toxiques. Ce matin, de la fumée continue de monter au-dessus du port.
Laure Stéphan, correspondant de France Culture à Beyrouth, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété par ailleurs ce mercredi jour de deuil national. À propos du nitrate d'ammonium, cette substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs, rappelons qu'il a déjà causé plusieurs accidents industriels majeurs, dont l'explosion d'usine AZF à Toulouse, c'était en 2001. Catastrophe qui avait causé la mort cette année-là de 31 personnes à Toulouse. De la catastrophe à Beyrouth, Beyrouth. Il en sera question d'ailleurs dans les minutes qui viennent avec un prochain invité avec vous, Chloé Cambrelin. En France, catastrophe aussi, mais mineure par rapport à ce qui s'est passé au Liban. Mais tout de même, 2700 personnes ont dû être évacuées hier soir à Martigues dans les Bouches-du-Rhône à cause d'un violent incendie qui a ravagé près de 1000 hectares en quelques heures à peine. Plus de peur que de mal, beaucoup de campeurs parmi les personnes secourues, évacuées d'ailleurs par la mer et regroupées dans 8 gymnases des communes voisines. Il n'y a pas de victimes à déplorer.
France Culture 8h06, Ezequiel Fernandez. Le groupe Accor va procéder à des coupes claires dans ses effectifs, la suppression de 1000 emplois sur 18 000.
Le géant français de l'hôtellerie, propriétaire des chaînes Ibis, Mercure ou Novotel, entre autres, a fait état hier d'un déficit record dans un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. Le groupe assure qu'il envisageait une réorganisation avant même la pandémie, mais le fait est, Anne-Laure Jumet, que la crise lui donne une toute autre ampleur.
Au plus fort de la crise sanitaire, Accor a dû fermer 90% de ses hôtels. Résultat, sur les 6 premiers mois de l'année, le champion français de l'hôtellerie a enregistré une perte nette historique d'1,5 milliard d'euros. D'où ce commentaire du PDG du groupe Sébastien Bazin. Le choc que subit notre industrie est sans précédent et d'une violence inouïe. Alors, dès le mois d'avril, le propriétaire des marques Novotel, Mercure ou encore Sofitel a pris des mesures d'urgence. Chômage partiel, suspension du dividende, réduction des investissements et plan d'économie. Des mesures amplifié avec ce plan social qui touchera les sièges du groupe dans une vingtaine de pays. 1000 postes au total donc, mais on ne connaît pas à ce stade la répartition géographique. Dans les colonnes des Échos, le patron d'Accor explique que cette réduction d'effectifs était en gestation avant même cette crise sanitaire, car le groupe souhaitait revoir son organisation en profondeur. Dans les sièges, un tiers du temps est consacré à des réunions, déplore-t-il, précisant avoir avec ses équipes décortiqué 7000 tâches et analysé les doublons. À présent, des discussions vont s'engager avec les partenaires sociaux. Accor assure vouloir porter une attention particulière aux collaborateurs les moins qualifiés avec des plans d'accompagnement et de formation.
À propos de la crise sanitaire, cette nouvelle mise en garde du Conseil scientifique intervenu hier, le fameux Conseil scientifique qui guide, vous le savez, les choix du gouvernement face à la pandémie, le nombre de patients en réanimation est reparti à la hausse ces derniers jours, ceci expliquant sans doute cela. Selon le Conseil scientifique, l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment. Il estime même probable qu'une seconde vague épidémique intervienne d'ici l'automne ou l'hiver prochain. L'Inde fait-elle avec le Cachemire ce que la Chine fait à Hong Kong? Les amalgames sont parfois risqués, certes, mais la question peut être posée dans ces termes. Il y a un an, jour pour jour, le gouvernement indien abrogeait unilatéralement l'autonomie du Cachemire, seule région à majorité musulmane du pays qui bénéficiait d'un statut spécial depuis l'indépendance. New Delhi a en même temps coupé toutes les communications et arrêté la plupart des dirigeants de l'opposition. Un an après, le gouvernement affirme que les attaques terroristes ont diminué, mais l'opposition demeure muselée. Les restrictions font souffrir cruellement la population. Dossier de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi.
Le 30 juillet dernier, Saifuddin Soz, ancien ministre fédéral et responsable du parti du Congrès au Cachemire, passe la tête au-dessus du mur de sa maison pour parler à une caméra de télévision. « Je ne suis pas libre de mes mouvements », lance-t-il avant d'être attrapé violemment par des gardes. Ce dirigeant modéré de l'opposition affirme que cela fait un an qu'il est en détention. Et des dizaines d'autres politiciens du Cachemire seraient dans la même situation car ils ont déclaré leur opposition à l'abrogation de l'autonomie de leur région. Khurram Pervez est le coordinateur de la coalition de la société civile du Cachemire.
Aucune charge n'est officiellement retenue contre ces personnes. Elles sont en détention préventive sous le prétexte que si elles étaient libres, elles pourraient perturber la paix au Cachemire. Ces détentions violent leur droit à avoir une opinion et elles sont donc illégales.
New Delhi a ainsi décapité l'élite politique locale, ce qui est périlleux selon Ajay Sani, directeur du Institute of Conflict Management à New Delhi.
En temps normal, un habitant peut avoir recours à son député quand il estime souffrir d'une injustice. Maintenant, ce processus démocratique n'existe plus. Il ne reste donc que deux options aux Cachemiriens, se taire ou prendre les armes.
Depuis un an, le Cachemire est dirigé par un gouverneur nommé par New Delhi ainsi que par une assemblée au pouvoir réduit, mais ce parlement n'a toujours pas été élu.
Sébastien Farsi à New Delhi, ajoutons qu'hier, des experts des droits de l'homme des Nations Unies ont dénoncé une situation qualifiée d'alarmante au Cachemire indien. La Suède, rattrapée par la violence, ce pays scandinave, terreau d'une floraison d'auteurs de polars, connaît une vague de faits divers sanglants qui témoignent de la brutalité de la guerre que se livrent les gangs de trafiquants de drogue dans les banlieues des grandes villes. Dernier épisode en date, la mort d'une jeune fille de 12 ans. Elle a été tuée dimanche dernier par une balle perdue alors qu'elle promenait tout simplement son chien près d'une station essence dans la banlieue de Stockholm. Notre correspondant en Suède, Frédéric Faux, s'est rendu sur place.
Sur le parking où Adriana est tombée, tout près d'une sortie d'autoroute, le bitume est recouvert de dizaines de bouquets de fleurs et de bougies. C'est un défilé ininterrompu de personnes qui s'arrêtent pour rendre un dernier hommage à la jeune fille de 12 ans. Souvent des mères de famille avec leurs enfants, comme Meldre, une réfugiée cubaine.
Avant, on disait de la Suède que c'est un pays où l'on était en sécurité. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est de pire en pire. Pour nous, les parents, c'est difficile d'être serein en pensant que nos enfants sont en danger dans la rue.
Parmi ceux qui se recueillent, il y a aussi un professeur de la petite école où était scolarisée Adriana. Pour cet enseignant qui a toujours vécu dans cette banlieue de Botkyrka, à 20 km au sud-ouest de Stockholm, ce drame ne doit pas jeter l'opprobre sur les quartiers défavorisés de la capitale, où vivent une majorité de migrants.
De l'extérieur, on peut s'imaginer des quartiers minés par le crime. Mais je travaille dans ces quartiers où l'on parle 182 langues différentes depuis 30 ans. Et c'est la première fois que je vois un drame pareil. Cela fait des décennies que la criminalité est en baisse en Suède. Mais la seule exception, ce sont les gangs.
Cette guerre des gangs sur fond de trafic de drogue est en effet un problème majeur en Suède. Au cours du premier semestre 2020, 20 personnes ont déjà été tuées dans 163 fusillades. Et le plan dévoilé l'année dernière par le gouvernement, qui prévoyait notamment un renforcement des effectifs de police et des peines plus lourdes, reste pour l'instant sans effet.
Frédéric Faux dans la banlieue de Stockholm en Suède. Direction maintenant l'Amérique du Sud. L'avortement rendu encore plus difficile en ce moment et plus dangereux au Chili en pleine pandémie. Dans ce pays, interrompre une grossesse n'est légale que dans trois cas très précis. Le viol, le danger pour la vie de la femme enceinte ou quand le fœtus n'est pas viable. Hormis ces trois cas de figure, l'IVG reste complètement interdite et les femmes qui ont recours risquent en théorie jusqu'à 5 ans de prison. Une interdiction qui n'empêche pas les avortements clandestins. 60 000 à 200 000 chaque année. Et avec la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières du Chili, ces avortements sont encore plus dangereux qu'avant. Justine Fontaine.
Accès à la contraception pour ne pas avorter, avortement légal pour ne pas mourir. C'est l'un des slogans qu'on pouvait entendre pendant les grandes manifestations féministes ces dernières années au Chili. Une revendication encore plus urgente en période de pandémie.
J'ai décidé d'avorter parce que j'ai déjà un enfant et je ne me sens pas prête à en avoir un autre, encore moins dans le contexte actuel.
Tamara a 28 ans, elle n'a pas de revenu stable à cause de la crise sanitaire et comme elle ne pouvait pas avorter légalement, elle s'est mise à chercher du misoprostol sur le marché noir. C'est le médicament généralement utilisé au Chili pour les avortements clandestins.
La dose devrait être de 12 comprimés pour être sûr que l'avortement se produise correctement. Mais les 12 comprimés étaient très chers, je n'avais pas cet argent. Donc j'ai dû le faire avec 8 seulement.
À cause de la fermeture des frontières, il est devenu beaucoup plus difficile d'importer le médicament depuis l'étranger. Et les prix ont quasiment été multipliés par 3. Ils frôlent les 400 $ aujourd'hui, quasiment un salaire minimum au Chili. Maria Ignacia Veas est membre de la Fondation Miles, qui donne des informations sur le droit à l'avortement et offre un soutien psychologique aux femmes, notamment celles qui souhaitent avorter.
Elles vont se retrouver à utiliser des méthodes qui peuvent mettre en danger leur vie ou provoquer des infections, par exemple. Et donc la mortalité due à des avortements pourrait augmenter.
En cas de complications graves, certaines femmes ont très peur d'aller à l'hôpital par crainte d'être dénoncée à la police.
Le coup près a fini par tomber sur France 4 et France O. Il fallait bien s'y attendre. Les deux chaînes du service public étaient en sursis depuis 2 ans, sursis prolongé pour une petite année pour ce qui concerne France 4. En revanche, exécution quasi immédiate pour France O. La guillotine tombera le 23 août prochain, dans quelques jours donc. Il y a beaucoup d'ultramarins qui protestent et qui ont déjà protesté contre ces fermetures annoncées. C'est le cas de Kant Lebon, un restaurateur installé à Lyon, un Guadeloupéen arrivé chez nous en métropole à l'âge de 10 ans.
Depuis que je suis en Hexagone, on a toujours pu voir mon pays de naissance, la Guadeloupe, à travers les reportages de France O, à travers les journaux de France O. Et avant, c'était RFO. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui était dans mon inconscient, quoi. Voilà, ça faisait partie de ma vie. Si je voulais m'informer de ce qui se passait, je me mettais sur RFO à l'époque ou France O maintenant. Et dès qu'il y avait une catastrophe ou quand il y avait des événements particuliers, On se précipitait tous sur la télé pour voir France O, pour voir si on en parlait. Donc c'est vraiment quelque chose de culturel, en tout cas pour les personnes de ma génération. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et effectivement, quand on vous enlève une partie de vous-même, ça fait mal. Et bien évidemment, on fait tout pour que on ne vous l'enlève pas.
Nakante Lebeau, restaurateur installé à Lyon, au micro France Culture de Maxime Tellier. La météo très rapidement, Chloé, pour vous dire qu'il va faire beau et chaud. Aujourd'hui, ciel bleu, température jusqu'à 33 degrés pour les maximales cet après-midi.